Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de toujours rester fidèles au programme de la 103.8 FM. Vous êtes sur votre matinale qui aborde sa dernière rubrique des bars à cette heure-ci. Donc, mais pour ce matin, il n'y a pas des bars. Eh bien, nous avons en studio des invités que nous allons prendre pour parler avec eux politique. Ils sont deux à être invités ce matin. Un est déjà avec nous, Edgar Sedjo, analyste politique. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Nous avons invité quelqu'un d'autre. Il est un jeune leader politique. Hein. Il est du parti Union Progressiste le Renouveau. Il va nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio. Mais en attendant, on sera en train de faire l'exercice avec vous.
Merci.
Alors, après donc les élections du 11 janvier 2026, la Sénat a donné les résultats et puis d'après ces résultats donnés par la Sénat, eh bien, au niveau de la commune d'Alada, c'est le bloc républicain qui avait la majorité en son temps. Eh bien, ce que l'Union Progressiste, le Renouveau, a contesté et très vite, des recours ont été déposés à la Cour suprême. Et puis, ces recours ont été étudiés et vendredi dernier, il y a eu revirement de situation. Eh bien, le bloc républicain a perdu sa majorité au détriment de l'Union Progressiste, le Renouveau. Tout s'est joué au niveau de l'arrondissement central d'Alada. Edgar Sedjo, analyste politique, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce revirement de situation?
Je pense que ce revirement de situation intervient en plein système de réformation politique. Vous voyez que peut-être que ça se passait avant. Mais normalement, dans le système actuel, on ne devrait pas assister à ce genre de choses.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, ce qui s'est passé, vous voyez, la Sénat a donné vraiment les résultats définitifs. Si vous voyez sur la liste, on a dit résultats définitifs. Ce n'est pas provisoire. Et partant de là, une fois qu'on a dit résultats définitifs, normalement, même s'il devait avoir recours, tout ça, ça ne devait pas avoir cette ampleur. Parce que ce qui s'était passé, c'est que on peut dire que le coordonnateur communal de la Sénat a failli à sa mission. À sa mission, en quelque sorte, que de donner les résultats, d'envoyer avec précision les résultats sortis des unes. Et non les résultats du terrain, sortis des unes. Donc ce n'est pas les résultats sortis des unes qui étaient allés à la Sénat. Et voilà, la Sénat, lui, il comptait vraiment sur ses coordonnateurs pour dire, bon voilà, puisque c'est sûrement des gens assermentés. Donc dire, bon, les résultats qu'ils me donnent sont vraiment suffisamment valables pour que je puisse programmer vraiment les résultats comme cela se doit. Voilà qu'on a eu seulement à envoyer à la Sénat les résultats du terrain et non les résultats des unes.
Ben, comment est-ce que l'on peut expliquer tout ce que vous dites, résultats du terrain? Est-ce qu'il y a eu tripatouillage, en quelque sorte?
Bon, vous voyez, quand on prononce les mots tripatouillage, ceci, cela, mais...
Ou bien, il y a eu permutation des chiffres, en quelque sorte.
Bon, permutation des chiffres ou pas, moi, ce que je veux dire et je veux soutenir, c'est que, d'abord... vous avez dit tout à l'heure que c'est au niveau de l'arrondissement central que ça s'est passé ainsi. Ce que le coordonnateur même avait affiché, qui est le total, parce que lorsqu'on fait une opération, on a réponse soulignée. La réponse soulignée donnait 2200 pour l'UPR et 1961 pour le BR. Et pourtant, les résultats définitifs de la Sénat met le BR en tête. Donc, ça veut dire que, vous savez, bon, moi, je veux vous dire tout simplement, hein, c'est un crime qui a été commis. Je ne parle pas de tripatouillage, ni vraiment de ça. C'est un crime qui a été commis. Parce que, lorsque nous voyons le nombre de votants, le nombre vraiment, je vais dire, et les calculs, déjà, au niveau de la Sénat, ça ne donnait pas le même total que le coordonnateur avait affiché. Mmh. Et voilà, puisqu'on a tout juste essayé d'embrouiller les choses, permettez ou augmenter, puisque je ne peux pas dire le canevas vraiment qu'ils ont pris, mais on a constaté qu'il y a permutation quelque part, il y a augmentation de chiffres d'autre part. Donc tout cela a concouru à ce résultat de la Sénat. Donc je me suis dit que bon, le Sénat, la Sénat, je veux dire, ne s'est même pas préoccupé du résultat total que le coordonnateur a donné. Mmh. Il s'est encore basé à faire le calcul des points que chacun a pour donner ce résultat que nous avons et faire remporter déjà le BR aux premières heures. Donc, voilà un peu, je veux dire, ce qui s'est passé puisque la population a voté paisiblement. Les urnes ont été scellées devant la population au niveau des centres de vote, mais une fois à l'arrondissement, il y a eu vraiment de mal d'homme parce que tout ce qui s'est passé, on ne peut pas le dire sur les ondes. C'est sur les ondes, excusez-moi, c'est un peu aberrant, c'est un peu vraiment, c'est-à-dire, on ne tient pas compte, c'est non-respect à la population. D'accord. Tout simplement.
Et comment est-ce que vous appréciez l'attitude de la Cour suprême par rapport à sa réaction, coûte que coûte, certains ont pensé que ça allait durer 6 mois avant que, eh bien, le droit ne soit dit, mais on a constaté que ça a été très très vite, ça s'est très très vite passé.
Puisque très tôt, ceux qui ont gagné en résultat définitif de la Sénat ont commencé déjà par se réjouir. Alors qu'eux-mêmes, ils savaient que, bon, voilà, il y a erreur, qu'ils ne sont pas à ce point, parce que chaque parti politique a son état-major qui a compilé les chiffres à son niveau et qui sait. Donc, les gens veulent toujours utiliser la loi pour commettre des erreurs ou des forfaits, je veux dire. Parce que si moi, en tant que politicien, je sais que, bon, voilà, je n'ai pas eu vraiment ce mérite qu'on me le donne, je ne devais pas commencer par me réjouir. Au contraire, je vais commencer par réfléchir. Mais les gens ont commencé très vite la fête. Et je pense que cette fête qui a vite commencé et le recours que les autres ont formulé pour qu'il n'y ait pas vraiment de l'effervescence populaire après, avant ou bien pendant l'installation des maires, de ses adjoints, je pense que ce que la Cour suprême a fait, il n'a qu'à continuer comme ça parce que la loi a dit dans un délai maximum de 6 mois. Donc, si la Cour n'intervenait pas vite, puisque dans la même loi, on dit que ça ne doit pas arrêter, les recours n'arrêtent pas le processus électoral. Article 106 du code électoral en vigueur en République du Bénin l'a précisé, que ça n'empêche pas. Donc, ça veut dire qu'on pouvait déjà installer un maire illégalement et revenir là-dessus 6 mois après. 6 mois, c'est important. 3 mois même, c'est important. 1 mois même, vous mettez quelqu'un déjà en exercice pendant 1 mois. Et finalement, on dit, bon, il n'est plus le maire parce que son parti n'a plus la majorité, donc il redescend. Ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien pour la démocratie. Ce n'est pas bien pour la politique actuelle du Bénin. Donc, j'ai vu que la Cour a su vite prendre le taureau par les cornes pour commencer par résoudre, bien avant l'installation des maires, ce contentieux-là. Si on pouvait continuer comme ça, avec promptitude, dans l'appareil judiciaire, parce que c'est lui qui s'occupe du contentieux. Et désormais, je veux qu'on réinscrit dans la loi que le traitement des contentieux doit être réglé avant l'installation. Mmh. On doit mettre ça proprement dit dans la loi.
On doit être précis.
Donc, on doit dire que dès que les résultats définitifs sont prononcés et qu'il y a déjà des recours, bon, dans des communes comme ce fut le cas de d'Alada, bon, la loi dit qu'on ne doit pas arrêter le processus. Tant que les recours ne sont pas passés, il n'y a pas installation des maires, du maire et de ses adjoints.
Le problème ne s'est pas posé qu'à Alada seul. Il y a eu d'autres communes comme Porto Novo, Apromistrité et bien d'autres. Est-ce que cette situation ne remet pas en cause la fiabilité ou la vérité au niveau de notre système électoral?
Ce n'est pas la fiabilité au niveau de notre système électoral. Nous, actuel, on vient de l'expérimenter. Et comme j'ai eu toujours l'habitude de le dire, ce sont des hommes. Vous pensez un homme à qui on a donné le pouvoir de compilation, il doit le faire vraiment comme cela se doit. C'est des hommes qui ont agi comme ça. C'est des hommes qui nous ont amenés à ces contentieux. Parce que les résultats des urnes ne sont pas perdus. Parce que dans chaque centre de vote, au moins, il y a un policier qui compile les résultats, il envoie à son chef hiérarchique. Il y a un représentant de la préfecture qui compile, qui envoie ça à la préfecture. Donc, même partant de ce niveau-là, les résultats ne doivent pas être différents. Dès que les résultats sont différents d'un point de compilation à un autre,
ça devient problème.
Ça devient un problème. Donc, tout à l'heure, je dis que ça a failli au niveau vraiment de la coordination de la Sénat à notre niveau, tout simplement parce que vous voyez les excuses portées par notre coordonnateur de Sénat ici, qui n'était pas en lui-même, qui avait eu décès le jour-là. Donc, lorsque vous êtes un agent assermenté à ce niveau-là, compilation des résultats. Ce que la population a fait, on veut rendre compte fidèlement de ça à la population. Et voilà, dans ces comptes rendus, il y a erreur parce que le porteur n'était pas en lui-même, il n'était pas conscient. Même s'il y a décès de père, de mère, ça ne peut pas empêcher un agent assermenté de faire son travail comme cela se doit. Chacun à son niveau doit faire le travail. Donc, ça veut dire que, une part, moi, je ne veux pas parler de la corruption ou de trucs là. C'est les hommes qui sont chargés de réglementer cela ont failli à leur mission. Parce que je ne sais pas, en tant que responsable à un poste donné, combien on peut me donner pour que je puisse perdre ce poste. Ce n'est pas possible. Parce que ce coordonnateur, désormais, on le connaît. Est-ce que demain, il va encore se retrouver sur la liste des coordonnateurs au Bénin? Non, du tout pas.
C'est
moi,
comme un arbitre qui gère mal
la finale d'une coupe. Puisque c'est la finale. On a tout fait pour faire chose là, mais voilà, il met tout en jeu comme ça. Il pouvait, puisqu'il était le seul maître du terrain. C'est à lui de faire son travail comme cela se doit. Donc, je dis tout simplement que ce n'est pas le système, ce n'est pas chose là, c'est les hommes placés dans le système qui ont failli à leur mission.
Justement, est-ce que vous ne voyez pas que, hommes que nous sommes, oui, nous ne voulons pas nous corriger mentalement malgré tout ce que le chef de l'État fait pour qu'au niveau de nos administrations, nous ayons des cadres responsables?
Je pense que je l'ai déjà dit ici, c'est la tête. Lorsque vous êtes déjà corrompu au départ jusqu'à un niveau donné, ce serait impossible de vous corriger pendant un processus. Ça va beaucoup prendre de temps sur vous. Donc, je pense que le temps est en train de prendre sur ceux-là parce qu'ils doivent savoir que le monde a déjà évolué aujourd'hui. Nous sommes dans un monde électronique aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant et où on peut faire chose là. Vous savez, les résultats sont transmis automatiquement par des gens. Je suis en train de voir pourquoi pendant les votes, on interdise des choses pour qu'on dise, bon, non, on a dit qu'on ne doit pas diffuser le résultat sorti des urnes avant la proclamation de la Sénat. Tout ça là contribue à cela. Parce que la personne sait que, bon, personne n'a plus le droit, c'est moi, tout ça là, il n'y a pas je vais dire, il y a un contrôle régulier, mais sur le terrain, il n'est pas vraiment tellement bien contrôlé comme cela se doit. Or, tout se passe sur le terrain. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on nous a donné les résultats du terrain, mais non, les résultats sortis des unes. C'est ce qui a fait qu'il y a recours, sur recours, pour deux partis politiques du même, de la mouvance. Je veux dire directement, deux partis politiques frères. Il n'y a pas d'opposition dedans. Donc, s'il y a recours, c'est qu'il y a mal donné quelque part. Si deux partis politiques frères, entre deux partis politiques frères, ça s'est passé comme ça. Si l'opposition était vraiment en jeu, qu'est-ce qui se passerait? C'est la question que je me pose, parce que ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne nous donne pas vraiment, vraiment notre, l'honnêteté du cœur que le citoyen, la personne responsabilité doit avoir pour le pays dans les affaires comme aussi sensibles que les élections. Oui, puisque ça peut tourner autrement. Si la Cour n'intervenait pas vite et lors des installations, l'autre partie se lève pour dire « Jamais, on ne va pas assister à ça. » Il y aura des manifestations un peu partout et on va dire « Mais ça veut dire ça, ça, ça veut jeter encore. » Et quand les caméras montent dessus, ça devient autre chose à l'extérieur. Ça devient autre chose à l'extérieur. Donc cela, c'est de mauvaises images qu'il veut donner à notre pays à l'extérieur. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on arrive à corriger cela.
Il ne devrait pas avoir sanction?
Ah, vous savez, il doit avoir sanction parce que c'est un coup électoral. On en a monté un coup contre la population. C'est la population même, c'est parce qu'il n'est pas peut-être permis à ce niveau-là à des individus de le faire. Sinon, moi, en tant que, bon, je dis comme ça, en tant qu'électeur, que je me dis, bon, voilà, vous voyez aussi, et la chose est organisée de manière aujourd'hui que le citoyen n'est pas partisan, il est sympathisant. Oui, donc dans la sympathie que j'ai essayé de faire, puisque vous avez vu le taux de participation aussi, hein, le taux aussi, ça prouve que des gens ont fait l'effort d'être aux élections et leur effort a été manipulé par un individu ou des individus. Il doit avoir sanction. Il faut qu'on sanctionne pour que celui qui a vraiment voté puisse savoir, oui, vraiment, si je vote normalement et qu'il y a mal donné, ceux qui l'ont fait sont sanctionnés parce qu'il faut de la jurisprudence en la matière.
Désormais, on connaît le parti qui a la majorité au niveau de la commune d'Alada. C'est l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau, dans quelques heures ou dans quelques jours va installer son équipe dirigeante. Alors dites-nous qu'est-ce qu'on peut déjà demander à ces élus? Je ne veux pas parler uniquement du Parti Union Progressiste de Renouveau, y compris les élus communaux du Bloc Républicain. Ce sont eux qui, désormais, eh bien, auront le dernier mot pour le développement de la commune d'Alada. Qu'est-ce qu'on peut leur demander, déjà?
Les élections sont terminées. Et je pense que, au lieu de commencer par se réjouir, par faire la fête, ils n'ont qu'à commencer par réfléchir à comment mener les activités de la commune pour qu'il y ait vraiment développement. Parce qu'on ne peut pas faire développement sans activité. Et lorsqu'il y a activité, et en tant que maire, chef d'arrondissement, conseiller, vous ne participez pas à ces activités comme cela se doit, ou vous essayez de faire une participation négative, je pense qu'il n'y aurait pas de développement. Et je vais vous dire que nous avons parlé de tous les conseillers, que ce soit BR ou UPR. Mais l'UPR, aujourd'hui, qui est en train de prendre le pêchoir, doit savoir qu'il a d'abord une responsabilité politique et une responsabilité de développement. Parce que je dis, la politique ne développe pas, il prend des décisions pour le développement. Vous comprenez très bien avec moi. Donc, leurs décisions politiques n'ont qu'à vraiment contribuer au développement des localités d'Alada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et c'est un peu partout dans le Bénin que ces mêmes choses manquent. On le sait déjà. Ce n'est pas maintenant de sortir le répertoire. Puisque avant d'être politicien, tu sais déjà ce qui manque. Avant d'être sur la liste, tu le sais. Une fois élu, tu le sais déjà. Et vraiment, je pense qu'ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Donc, ce n'est pas maintenant le temps de leur dicter cela. Ils n'ont qu'à déjà commencer par réfléchir au niveau de leur état-major, au niveau de leur système gouvernemental, pour dire voilà comment on peut faire pour qu'il y ait déjà développement et que la population sympathisant du parti ne se retrouve pas demain à dire oh, si je savais. J'allais déjà, pour qu'on ne dise pas ça, parce que voilà, finalement, on dit, oh, on aurait pu mettre l'autre partie là, on a fait, et voilà ce que ça a donné. Donc, ils ont vraiment une lourde responsabilité de développement dans le système actuel, où on vient de faire 10 ans sans que Alada n'ait connu vraiment un développement comme cela se doit. Je pense que déjà, à la fin, maintenant, on a déjà commencé quelques routes, quelques des infrastructures. Ils doivent revenir sur ça, suivre ça, comme cela se doit. Parce que les autres disaient, c'est nous qui étions là quand on a initié. Si on n'est pas là, ça ne peut plus marcher. Ils n'ont qu'à démontrer le contraire, que ça pouvait marcher plus que ce que espérait la population. Donc, il faut qu'on quitte vraiment notre état d'être chef, puisque c'était un état au départ, quand il y a les élections, l'état, pour revenir à notre état de responsabilité, pour dire qu'il doit avoir une continuité de perfection, pas comme les autres.
Est-ce que sur les deux listes, vous voyez des hommes capables de conduire véritablement le développement de la commune? On le sait, il y a beaucoup d'anciens qui sont revenus, il y a beaucoup de têtes nouvelles qui sont rentrées dans le rang. Edgar Sedjiro,
tous ceux qui sont élus, que ça soit du côté de BR, que ça soit du côté de UPR, ils sont tous capables. Tous capables. Il n'y a pas peut-être de superman. Pourquoi? Parce que le maire sera entouré de ses adjoints. Et une fois entouré de ses adjoints, la capacité de l'un et de l'autre va contribuer à sa capacité pour qu'il y ait développement. Maintenant, dans le système actuel où peut-être c'est le parti politique qui décidera de qui être maire, je pense que le parti doit beaucoup réfléchir pour choisir un maire de consensus. Un maire de consensus, ils peuvent tous le savoir. Il ne faut pas donner le perchoir à qui veut.
Mais c'est qui peut.
Mais à qui peut. Qui peut réellement, ils le savent. Parce que vous êtes en train de dire là, il y a des anciens. Ah, mais les anciens, ceux qui ont déjà... Bon, qui connaissent déjà la maison, je pense que c'est des gens au premier rang à qui on peut déjà confier la responsabilité de la tête du conseil communal. Donc, je pense que c'est au parti de décider, ce n'est pas à nous de dire, bon, on voit celui-ci. Non, c'est d'abord une désignation purement politique et je vous dis que la politique permet de prendre des décisions. Et si on prend quelqu'un qui n'est pas consensuel, je pense que bientôt, maintenant, on va commencer encore par des murmures par-ci, par-là, qui peuvent empêcher les activités.
Mais murmures, il y en aura parce qu'il y a la trêve politique qui est là et instituée par la nouvelle constitution.
La trêve n'empêche pas les murmures. Si on te dit tu ne parleras pas, quand même, tu peux ronchonner. La trêve ne peut pas empêcher les murmures. Et je pense que les murmures tuent vite. Ça sature beaucoup. Lorsque le parti politique ne sait pas qui mettre là, celui-là peut être là en tant que membre du parti politique désigné par le parti politique pour être là et travailler pour. Parce que déjà, ils sont déjà élus aujourd'hui. Ils sont déjà en train de penser à 7 ans. À 7 ans,
c'est ça.
Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 7 ans après, je puisse revenir ici? Ils sont chacun d'eux pense déjà à ça. Déjà, hein, puisque déjà quand tu parcours certains trucs-là, le slogan c'est 14 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train de penser à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? S'il n'était pas consensuel au départ, il va essayer de chercher lui-même le consensus et ça peut dérouter beaucoup de choses.
C'est ça.
Voilà.
Et on constate souvent que après le choix du maire ou de ses adjoints, il y a souvent division dans les partis. Au niveau de la commune de Nadal, nous avons vu ce qui s'est passé avec le bloc républicain. On dit il y a deux clans, il y a trois clans. L'Union progressiste, le renouveau également, deux clans. Est-ce que ça va permettre de donner un engouement à chacun pour propulser Alada convenablement?
Je pense qu'il faut qu'il se départisse de ce mot « clan ». Parce qu'un parti politique est unique et dispose en son sein un ou des coordonnateurs au niveau vraiment de chaque commune. Et il faut que la responsabilité de ces coordonnateurs soit mise en exergue et non la responsabilité ou le truchement ou bien la capacité financière de quelqu'un dans ce parti politique. Parce que ce qui crée vraiment ce clan, c'est voilà la capacité de l'un et de l'autre à pouvoir bien financer les choses. Bon, moi, j'ai plus d'embonpoint chez celui-ci, donc je me range avec lui. Ce qu'il dit, c'est ça que je dis. Et lui-même, il voit que, bon, j'ai des gens derrière moi. Même si je ne suis pas coordonnateur, je peux m'imposer. Et il y a aussi d'autres, lorsqu'ils savent que c'est eux les coordonnateurs, ils veulent devenir des supermans. Non. C'est pour ça que je dis le consensus. Le consensus, c'est déjà à la base. À la base, aujourd'hui, pour que les partis politiques émergent, c'est d'abord les chefs quartiers qui ont vraiment œuvré. Parce qu'un chef quartier qui n'a pas bien tenu son quartier politiquement pouvait échouer.
Bien sûr.
Donc, le consensus doit partir de la base. Pour qu'il y ait ça, réunissez les chefs quartiers qui ont contribué vraiment à ce résultat et commencer les consultations à la base avant d'aller au plus haut niveau. Ne pas tenir compte de l'embonpoint de quelqu'un pour pouvoir décider de qui sera maire ou de qui sera vraiment, parce que le résultat, c'est pour 7 ans. C'est après 7 ans qu'on aura le résultat. Aujourd'hui, je sais que les chefs quartiers sont très, très importants dans ce système électoral aujourd'hui. Parce que sans eux, le parti ne peut pas émerger. C'est d'abord les chefs quartiers. Maintenant, vous voulez désigner le maire et vous avez laissé ceux-là qui ont travaillé à la base et vous dites, je suis coordonnateur, c'est moi qui finance le parti, c'est moi qui fais ceci, donc c'est ma décision qui passe. Je pense qu'il peut y avoir de cassures plus tard. Lorsqu'on veut vraiment le consensus dans la désignation des maires et autres, il faut nécessairement consulter les chefs quartiers, l'ensemble des chefs quartiers qui ont constitué à ça, pour que déjà il peut y avoir peut-être une élection en leur sein, pour prouver vraiment le consensus au niveau du parti politique. Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi ce qu'on appelle la fidélité pour le parti. Il y a des gens qui ont vraiment œuvré pour que le parti arrive à ce résultat. Il faut les mettre vraiment en considération et voir vraiment leur poids politique pour pouvoir décider du sort politique du maire de la ville.
Tout compte fait, à la fin, c'est un seul que le parti politique va désigner pour prendre le pêchoir, alors que déjà dans les coulisses, on entend des noms par-ci, par-là. Est-ce qu'en principe, nous savons que c'est au parti politique que la dernière décision qui détient la dernière décision, on doit encore se donner à ces jeux-là sur le terrain, par exemple.
Non, moi je suis aussi à l'écoute comme vous, que des gens sont en train de courir et chercher la chose comme vraiment, comme du lait. Mmh. Je pense que s'il y a la conscience de responsabilité, je pense que déjà, on peut déjà commencer par éliminer certaines personnes. Mmh. Et c'est pour vous dire, pour éviter tout ça là, allez consulter les chefs quartiers. Demandez l'avis des chefs quartiers sur telle ou telle personne et vous verrez que ça sera un consensus, ça sera facile.
Vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut pas remettre le pêchoir à qui veut, mais c'est qui peut.
C'est qui peut, il faut donner le pêchoir à qui peut. Parce que, par exemple, celui qui est élu et qui veut le pêchoir et qui est dans la population depuis et qui lutte pour la population, c'est mieux que quelqu'un qui va et qui revenait et qui est revenu prendre le truc pour être au pêchoir. Non, ça n'aura pas le consensus du peuple parce que l'autre était dans le peuple, il était là, il était avec le peuple tout le temps. Mais l'autre, vraiment, on le voit, il vient, il fait chose là, ou déjà, peut-être avec les... Bon.
Et surtout, on va demander aux partis politiques de ne pas nous donner des maires qui ne vont pas vivre dans la localité, qui auront leur domicile à Cotonou, ou à Abidjan, ou au Ghana, ou à, je ne sais pas, pour ce jour, ne rien donner à la population.
Bon, peut-être que quand ils seront maires, ils viendront donner, mais ce n'est pas du tout ce que le peuple veut.
D'accord.
Le peuple veut vraiment des gens qui sont avec eux, qui... de tous les jours, maîtrisent leur quotidien et qui peuvent répondre favorablement, chez qui ils peuvent aller sans même frapper à la porte, rentrer et exposer leurs problèmes à tout moment. Je pense que c'est peut-être ce que le peuple veut.
D'accord.
C'est moi. Le peuple, c'est le peuple.
Edgar Sadjuro, oui. On est pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez encore 30 secondes pour conclure.
Donc, pour conclure, je dis tout simplement, les élections sont passées, les recours sont passés. Aujourd'hui, il y a vraiment, je vais dire, transvasement de politique. Ça ne veut pas dire que les autres ont démérité. Tout le monde mérite d'être conseillé parce qu'ils sont déjà élus. D'accord. Mais il faut quelqu'un à la tête. Et celui qui doit être à la tête, c'est l'UPR qui veut choisir cette personne cette fois-ci. Et dans le choix, je demande aux leaders politiques, aux responsables de partis politiques de consulter la base.
D'accord.
C'est-à-dire, là, quand je parle de la base aujourd'hui, ce sont les chefs quartiers.
Edgar Sadjuro, on vous aura compris. Merci d'avoir pris part ici. Et échanger un peu avec nous ce matin. La main info matin pour le compte lundi 2 février 2026. Ça arrête ici maintenant. Cyril Kwadi, Arnaud Bozo, rendez-vous demain.